Accès refusé. Accès refusé. Accès validé.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Accès Validé, épisode numéro 4, il me semble.
Oui, c'est ça Gwen, épisode 4.
Comment ça va Seb ?
Bah écoute, ça va bien, toujours un plaisir de te retrouver et content de faire une nouvelle interview avec toi.
Alors aujourd'hui, c'est quoi de prévu ?
Une interview avec une amie à moi qui s'appelle Marie et que j'ai connue via le domaine du soin, puisqu'elle est kiné. Ça sera pour parler un peu de la place du soin pour les personnes en situation de handicap, comment ces soins se déroulent, la confiance qui en découle.
Voilà, c'est un sujet qu'on trouvait important de traiter, enfin traiter à notre échelle, puisque aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, elles décèdent plus tôt, elles ont une santé et un fonctionnement qui est moins favorable, et elles sont plus affectées par les urgences sanitaires comparées aux personnes non handicapées. Et notamment aussi, on voit bien que les interventions de santé publique, elles sont souvent non inclusives.
Exactement, et pour parler de santé, quoi de mieux que demander à une professionnelle comme Marie. On est très contente de faire cette interview.
Salut Marie.
Alors moi je suis Marie Bonneau, je suis kinésithérapeute du côté de Saint-Nazaire à Pornichet et j'ai une spécificité qui est celle de s'occuper d'enfants en situation de handicap et d'adultes aussi avec des atteintes neurologiques. Je travaille en libéral, c'est-à-dire en cabinet de ville, et j'interviens dans des institutions qu'on appelle des IME, Instituts Médico-Éducatifs, qui reçoit des enfants autistes avec une déficience intellectuelle et parfois un petit peu trouble du comportement. Dans un IEM, là c'est plutôt du polyhandicap, et là je prends en charge plutôt des enfants sur des difficultés alimentaires. Donc ce qu'on appelle de l'oralité alimentaire. Et puis sinon, je vais aussi dans les écoles et dans les crèches en fonction des besoins des enfants, quand ils sont dépistés très tôt, parce que plus on prend tôt des enfants en charge, meilleurs sont les résultats.
Et on se posait la question aussi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir kiné en fait ?
Alors, j'ai fait un bac en sport-études danse et j'étais passionnée par la danse et notamment par la compréhension du mouvement dans la danse. Donc, c'était la suite logique parce que danseuse, j'aurais pas pu l'être. J'avais pas le niveau technique et ni l'ambition d'ailleurs, pas assez. Hein. Donc, kiné était quelque chose de complètement cohérent en termes d'intérêt pour le mouvement. À l'époque, les psychomotriciens n'existaient pas beaucoup, il y en avait, mais c'était pas... En tout cas, moi, je ne connaissais pas assez. Je pense que je serais peut-être partie vers ça si finalement j'avais connu cette profession-là.
Et pourquoi, du coup, t'être spécialisée dans la branche du handicap ?
J'ai fait un stage dans un centre qui s'appelle l'Arche au Mans, qui est un centre de rééducation. Et j'ai eu la chance de rencontrer une kiné formidable qui travaillait avec les petits. Moi, j'étais pas spécialement intéressée par la pédiatrie, mais de travailler avec elle, j'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, là, on était sur un autre type de mouvement, un mouvement qui, du coup, n'est pas normé. Et ça devenait intéressant en termes de compréhension et en termes d'apprentissage parce que les bébés qui ont des atteintes ne vont pas apprendre les mouvements de la même manière. Donc là, d'un coup, ça devenait passionnant. À partir de là, je me suis occupée d'enfants longtemps que j'ai vu grandir, devenir plus grand, puis ado. Parce que 20 ans, on a le temps de voir les gens grandir. Et du coup, voir le handicap s'installer. Parce que quand on est enfant, on vit dans un milieu protégé où finalement le handicap n'existe pas, ou très peu. Et le handicap, il n'est lié qu'à un contexte. On devient handicapé du moment où on est dans un contexte qui nous handicape. Sinon, on ne l'est pas. Et les tout-petits, au début, ils sont aidés par leurs parents, par leur famille, par les accompagnants. Donc le handicap, il n'existe pas. Et puis, petit à petit, le handicap s'installe. La différence arrive avec l'acquisition de la marche, avec l'acquisition de la compréhension, ou de la lecture, ou de la parole, etc. Et là, le handicap s'installe. Et du coup, ça alimente les besoins.
Et toi, ton rôle et ta place justement dans ces besoins, c'est quoi ?
Donc moi, je suis kiné et en tant que kiné, mon rôle, c'est d'agir sur le mouvement. C'est principalement l'acquisition de la marche, mais la marche, elle n'est pas toujours possible. Donc comment on va diminuer le handicap avec une atteinte motrice ? Ça, c'est mon job. Ça peut être avec des cannes anglaises que communément on appelle des béquilles, ça peut être avec un fauteuil, ça peut être avec un déambulateur, avant ou arrière, ça peut être avec des attelles. Il y a une multitude d'appareillages qui existent pour accompagner ces enfants, pour leur donner de l'autonomie. Après, il y a tout le reste qui consiste à accompagner l'enfant, à faire du lien avec les écoles, à faire du lien avec les parents, à faire de ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire expliquer le handicap et accompagner adroitement avec pédagogie et diplomatie les familles pour leur expliquer votre petit chou, pour l'instant, vous vous en sortez très bien parce qu'il est petit, qu'il est léger et puis que c'est encore un petit tout, mais il va se confronter à la différence et au handicap, vous aussi. Et donc, comment ensemble on va construire une vie qui sera très belle et qui sera très heureuse malgré cette difficulté motrice. Ça, c'est mon deuxième job en parallèle de la kiné, mais c'est le boulot de kiné, hein.
Je sais que ma mère a mis longtemps, parce qu'avec, c'était assez compliqué de trouver une kiné. Et en tant que kiné spécialisée en plus dans le handicap, pour nous, ça a été comme... on était très heureux, quoi. Et après, je me souviens aussi que le lien qu'on avait, c'était les soins, mais c'était aussi, comme tu disais, c'est le soin, mais aussi, c'est aussi tout le lien qu'il y a de la journée que j'avais passée, des difficultés que j'avais rencontrées. Et comment essayer d'aménager au mieux mon physique pour qu'en fait je me sente mieux en fait. C'était une personne importante pour moi quoi, avec qui je me confiais. Voilà, et du coup ça a créé du lien même jusqu'à aujourd'hui quoi. On est resté amis.
On est resté amis jusque là. Voilà. Je peux pas m'occuper d'un corps sans connaître la personne, c'est impossible. C'est pas que moi, hein, c'est globalement les kinés fonctionnent comme ça. Alors certains avec plus de distance professionnelle, bien sûr. J'ai besoin de connaître la personne pour ne pas m'arrêter à des suppositions, pour ne pas m'arrêter à des schémas que je connais déjà. Si je ne m'appuie que sur mon expérience, alors je ne connais pas la personne. Il va bien falloir qu'à un moment je découvre qui elle est, quelles sont ses attentes. Peut-être la stimuler pour qu'elle ose avoir des attentes, parce que c'est le problème dans le handicap et la différence, c'est qu'on voit qu'on est en difficulté et le monde entier vous dit « ouais, non, ça va être trop dur pour toi ». Et du coup, on perd l'engagement, on perd la motivation, on se dévalorise. Qui que ce soit, quel que soit le niveau de gravité du handicap, on est sur une personne à part entière, avec un tempérament, avec une histoire de vie. Donc, tout ça, c'est impossible de décorréler la prise en soin de la personne. Il faut s'adapter à ses attentes à elle et à ce qu'elle aspire dans sa vie. C'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas sur quelques semaines comme une rééducation de cheville ou de genou. C'est quelque chose de beaucoup plus long et la relation soignant-soigné, elle est essentielle.
Et Seb, du coup, tu disais que c'est toi qui as contacté Marie. Il y a beaucoup de demandes, il y a de l'attente ou...
Je sais que déjà que les places de kiné à Aix, je ne sais pas si c'est spécifique à Aix, mais c'est très compliqué d'avoir des places. Il y a très peu de kinés, en fait. Et après, c'était surtout de trouver quelqu'un qui connaissait le handicap, en fait. Et quand on l'a appris, on était assez surpris aussi. Je connais beaucoup de personnes en situation de handicap qui cherchent des kinés, même qui se déplacent encore plus. Moi, c'était les kinés à domicile. C'est assez compliqué pour trouver une personne ou un kiné, oui.
Et c'est exactement la raison, c'est la spécificité qui fait la différence, c'est qu'il faut quelqu'un qui s'intéresse à ce type de pathologie. Et il y a plein de kinés qui se forment à plein d'autres choses, du sport, du post-cancer, il y a tellement une multitude de pathologies qu'en fait, certains restent très généralistes, d'autres vont se spécialiser dans de la dermato ou dans autre chose. Et du coup, c'est pareil, c'est compliqué à trouver. Et du coup, dans le champ spécifique du handicap, Ça vient sûr ajouter des freins pour trouver quelqu'un. Et puis, les emplois du temps ne sont pas extensibles.
Accès refusé.
Tu parlais de la relation soignant-soigné. La confiance, elle est primordiale dans une relation. Et est-ce qu'elle est encore plus avec un patient qui est atteint de handicap?
Ah, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une question de temporalité. Un patient que tu vas voir une demi-heure ou trois quarts d'heure, une à deux fois par semaine, pendant des mois, tu vas nécessairement engager une relation plus profonde, plus entière. Et encore une fois, les enjeux ne seront pas les mêmes, parce que ce que tu veux, c'est améliorer la vie de ton patient. Et là, il y a un enjeu de vie entière. C'est-à-dire que si demain, tu n'accompagnes pas ton patient pour qu'il ait son fauteuil, en fait, il reste chez lui. Donc, fin de l'histoire. Sur une prise en soin qui serait plus courte, tu vas moins connaître ton patient, tu vas te fixer sur des objectifs très très précis. Et du coup, même si tu vas t'intéresser à sa cheville, à son sport, à pourquoi, quels sont les enjeux, ils seront à mon sens moins importants qu'une personne en situation de handicap. Où là, on se retrouve avec vraiment des vraies restrictions, ce qu'on appelle de participation. C'est-à-dire que tu ne peux plus aller à la fac, tu ne peux plus aller boire des coups. Ton fauteuil, il est crevé, c'est fini. Donc nécessairement, oui, dans le handicap, les enjeux sont tellement plus importants que je pense que la relation est plus puissante. Ouais.
Y a le lien de confiance, mais j'imagine que des fois, tu es confronté à des situations assez compliquées, en fait, des handicaps un peu lourds. On se demandait, parce qu'il y a l'empathie aussi dans le métier qui est important, comment tu le ressens aussi personnellement
Alors, souvent, je ne le gère pas.
Oui.
Et je le vis, c'est tout, sans analyse. Et il y a quelque chose qui existe, qui est génial, qui s'appelle la supervision, qui est donc des séances de psychologie où tu vas déposer tes émotions. Il m'est arrivé d'en avoir besoin, clairement. C'était absolument nécessaire parce que la difficulté rencontrée était trop importante, parce que, encore une fois, quand on s'investit auprès d'un patient, bah, c'est très compliqué de mettre un frein. Ça dépend après de la relation avec le parent aussi, bien sûr, mais voilà, quand il y a des enjeux vitaux sur un enfant, c'est compliqué de se limiter. Du coup, sur l'empathie, c'est un travail de longue haleine d'apprendre à être empathique sans se laisser déborder.
Et comment on fait ça ?
Comment on fait ça? Bah, on vit des situations et petit à petit, on apprend à ne pas se laisser envahir, à éventuellement déléguer à des collègues quand on sent que là, ça prend trop de place pour soi. Ça arrive de partager des prises en charge parce que ça devient une charge et ce n'est plus une prise en soin, effectivement. Surtout s'appuyer sur les équipes, je pense que ça, c'est la meilleure solution. Et pas forcément ceux qui sont autour de l'enfant, même des collègues autres, pour pouvoir en parler, pour pouvoir... rééchanger, remettre de la distance et se rappeler que c'est un patient, c'est pas un copain, ou voilà, que le parent n'est pas un ami, que c'est un parent et que t'es là en soutien, mais tu rentres chez toi, il faut que tout ça, ça reste au boulot. Je pense que le travail d'équipe est primordial dans ces cas-là.
Et donc, tu parles de communication aussi avec les familles, les parents. Comment tu fais pour bien gérer cette communication ? Parce que expliquer une entorse à quelqu'un, ça peut paraître du banal, du commun, mais comment on explique un handicap à des parents ou à des enfants ?
Il faut être capable de prendre son temps. C'est évident qu'on ne peut pas être frontal et arriver en disant voilà ce qui va se passer, voilà où vous en êtes et bingo. Non, impossible. Et en plus, ce n'est pas notre rôle. Parce que nous, on a un diagnostic de traitement, mais on n'a pas de diagnostic médical. Donc, on ne peut pas annoncer à une famille, même si on le voit et que c'est flagrant pour nous, qu'il y aura un handicap. On n'a pas l'autorisation déontologique de le faire. Donc, on va disséminer des informations tranquillement mais sûrement dans nos discussions pour apporter petit à petit du vocabulaire médical et du coup, au fur et à mesure de la conversation, amener de l'information, mais en prenant le temps et en acceptant surtout le temps nécessaire aux parents pour qu'ils comprennent, mais que ça n'heurte pas trop violemment sa sensibilité. Et puis, bah, voilà. Après, c'est aussi au rôle du médecin et encore une fois, le travail d'équipe qui fait que quand on fait des consultations en groupe, avec pluriprofessionnels, donc avec le médecin, avec les autres éducateurs, vont être abordés clairement tous ces sujets-là. Et comme ça aura été travaillé auparavant au fur et à mesure des séances, le parent va le vivre plus ou moins violemment, mais en tout cas, il va être accompagné là-dedans. Et l'enfant, c'est la même chose. Il y a des annonces qui sont plus violentes que d'autres, mais il y a des évidences qui, en fait, une fois que c'est dit, que c'est nommé, l'enfant dit « bah oui, je le savais ». L'enfant, il voit bien la différence, il la ressent. Il n'y a pas besoin toujours de nommer. Mais il y a un moment où il faut ce temps-là pour poser les choses.
Et justement, toi, Seb, ça t'a aidé, toi et ta famille, d'avoir une personne tierce, autre, extérieure pour...
Oui, bon, je sais que quand j'ai eu le diagnostic, en fait, c'était un médecin à la Timone qui m'a annoncé ce que j'avais, même si, comme dit Marie, ben, je sais qu'au fond de moi, je le savais un peu, je sentais des choses. J'avais des mots aussi, quand je voyais des personnes en situation de handicap, je disais à mes parents que c'était pas drôle, tu vois, j'avais un peu un temps miroir, en fait, je sentais quelque chose. D'un côté, le diagnostic, c'est violent, mais ça permet aussi, pour plus tard, de savoir qu'est-ce que tu as, en fait, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de diagnostic encore, ils ne savent pas ce qu'ils ont, ce qui peut les attendre. Moi, je sais que pendant un temps, il y a eu des accompagnements proposés. Je sais que, par exemple, nous, en France, il y a l'AFM, Téléthon, AFM Téléthon. Il y a un peu des groupes aussi qui s'appellent le SRAI, qui t'accompagnent normalement dans ton projet un peu de vie, tout ça. Mais nous, avec mes parents, ça ne nous a pas convenu. Voilà, on est tombé sur des personnes qui n'étaient pas trop... qui me poussaient rapidement dans le fauteuil, en fait. Voilà, avec mes parents, on a fait un peu notre chemin seul. Mais après, voilà, on a pu avoir aussi des personnes de soins. Et quand j'ai rencontré Marie aussi, ça nous a permis à mes parents aussi d'avoir quelqu'un qui était là pour des soins, mais qui le prenait vraiment à cœur, quoi, qui le faisait. Et sérieusement, en fait, voilà, c'était ça qui était important. Parce que dans le milieu de la kiné, c'est pas toujours simple aussi de trouver des, comme tu disais, des personnes spécialisées, mais aussi des personnes qui ont envie de vraiment t'aider aussi, t'accompagner. Faut pas hésiter, je pense, aussi à dire non. Comme moi, j'ai toujours été un peu comme ça, c'est le fait de, des fois, de comprendre ce qu'on me propose, mais aussi des fois de dire non, que ça me convenait pas forcément. En fait. C'est un peu l'équilibre à trouver.
Je suis d'accord avec toi, c'est aussi la rencontre qui doit se passer correctement et en tant que professionnel, c'est à nous de nous adapter à ce que l'autre est capable d'entendre. On peut voir des choses, mais ne pas les nommer, ne pas les dire. On peut les paraphraser ou on peut simplement attendre parce que ce n'est pas encore mûr, ce n'est pas encore possible d'en parler. Et tu as dit tout à l'heure, on a fait notre chemin et c'était clairement ça. Quand on s'est rencontrés, le diagnostic était récent Et je me rappelle très bien, j'étais pas d'accord avec ce diagnostic parce qu'il y a différents types de myopathie et l'échéance qu'on te donnait était très difficile à entendre alors qu'en fait, je disais, ah, mais non. Non, non, ça se voit que cliniquement, on n'est pas là-dessus, on est sur une myopathie qui sera plus lente, beaucoup plus lente. Et d'un coup, ok, on respire, attends, on se pose, on redonne de l'espoir, on repose les choses et on explique comment ça va un peu mieux se passer. Moi, j'avais envie de te rassurer et en même temps de t'expliquer plus posément les choses. Et ça a été vraiment une belle période où, à tous les quatre, on a vraiment eu des discussions hyper intéressantes. Et vraiment, je me rappellerai toujours hein, de cette période-là où, non, ça a été lent. Il a fallu prendre le temps des discussions parce qu'on va au rythme de chacun. Et dans un groupe, tout le monde ne va pas au même rythme. Donc, il faut vraiment prendre le temps de ça. Alors, j'ai eu, hein, avec toute ma bienveillance et tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure, j'ai eu des familles qui n'étaient pas du tout enclins à entendre ce que j'avais à leur dire. Donc, il y a un moment, c'est que ça n'est plus de mon ressort. C'est un accompagnement plus psychologique ou avec retour devant le médecin pour redire la même chose que ce qui a été dit, mais par une autre bouche pour que, voilà, que ça soit entendu. C'est OK, c'est pas grave. Ça peut pas être entendu, c'est pas grave, ça sera quelqu'un d'autre et ça sera très bien.
Accès validé.
Je voulais savoir un peu si tu, dans la prise en charge, tu ressentais qu'il y avait une évolution quand même en France.
C'est une question très politique parce que y a une sacrée organisation en France autour du handicap. Y a différentes institutions qui existent en fonction du type de handicap. Il y a une volonté d'aller vers de l'inclusion avec des lois qui passent, avec des gens qui s'intéressent, avec beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, beaucoup de gens qui font de la recherche. Enfin, il y a un véritable investissement humain dans l'inclusion du handicap dans la société. Après, je trouve que ça manque de conviction financière et que du coup, ce qui n'est pas rentable n'est pas très intéressant dans notre société actuelle et le handicap ne sera jamais rentable. Sauf qu'on vit dans une société française qui parle de fraternité et de liberté individuelle. Et donc, à quel moment les droits des 6 personnes en situation de handicap sont respectés complètement? Là, pour le coup, on a encore un très très long chemin à parcourir. Et c'est pas demain la veille qu'on sera dans une société égalitaire face au handicap. Oui, ça évolue sûrement. Je suis pas encore convaincue qu'on est au bout du chemin. Très très loin. On a encore beaucoup 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 de choses à améliorer.
Oui, c'était un peu ce qu'on avait vu aussi dans nos précédents épisodes avec Gwen, c'était sur la loi handicap, la loi de 2005. On voyait que dans les faits, c'est quand même une belle loi pour une belle avancée, mais enfin, sur le papier, c'est quelque chose de très bien, mais après, dans les faits, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et la mise en œuvre est assez longue, quoi.
Alors, c'est là où on touche un peu au nerf de la guerre, c'est qu'en fait, le handicap est lié à un contexte, mais si le contexte n'est même pas favorable à l'inclusion, bah, du coup, en fait, on surhandicape les gens.
Là, c'est ça. Et ça,
En ne mettant pas d'adaptation partout dans toutes les villes, déjà, on surhandicape les gens. C'est un manque de moyens et je pense un manque de conviction. Honnêtement, il y a des gens très, très humains et très investis, c'est évident, il y en a énormément. Mais il y a un manque de conviction politique à aller plus loin et à vraiment acter les choses et dire, bah, OK, on essaye d'aller plus loin.
Et donc oui, tu parlais du coup de politique. Et est-ce que toi, t'es investi dans le milieu associatif ou autre?
Alors oui, moi je suis dans 2 choses différentes. Je suis dans une CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, c'est-à-dire c'est un rassemblement de bonne volonté dans les professionnels de santé qui vont chercher à améliorer l'offre de soins de leur territoire. C'est territorial, il y en a du coup plein. Chacun agit en fonction des besoins de leur territoire. Donc ça peut être, par exemple, chez nous, on a beaucoup de personnes de plus de 60 ans, donc il va y avoir des axes qui vont être priorisés. En fonction du territoire sur lequel on vit. Et la deuxième chose dans laquelle je suis inscrite, c'est une association qui s'appelle Coquillage, qui est une association des Pays de Loire et qui va accompagner les professionnels rééducateurs de la pédiatrie pour améliorer le socle de connaissances communes, qui va faire du compagnonnage aussi, c'est-à-dire quand une personne a un besoin de jeter un œil avec lui sur une situation pour appréhender une compréhension un peu différente, ou vraiment venir voir un enfant. Il y a donc un compagnon, comme les compagnons du devoir, mais version coquillage, qui peuvent entrer en contact avec cette personne sur sa demande et l'aider à appréhender cette situation un peu différemment. Et il y a une troisième mission pour coquillage, c'est un soutien financier. Donc c'est l'Agence régionale de la santé qui donne des sous pour ça. et qui permet d'avoir une indemnité sur les actes non conventionnés. C'est-à-dire que le handicap, et notamment en pédiatrie, demande une attention spécifique avec des actes, c'est-à-dire des actions qu'on va faire, qui ne sont pas payées par la sécurité sociale. Comme par exemple venir faire de l'appareillage, comme aller à des consultations, comme aller à des réunions qu'on appelle les ESS, équipes scolaires spécialisées, qui rassemblent tout le monde avec les équipes de l'éducation nationale et les rééducateurs pour discuter de l'enfant, de la situation de l'enfant. Tout ça, c'est pas payé. Donc, c'est du bénévolat. Du coup, ça, c'est un choix, une priorisation de la sécurité sociale. Et on a cette chance d'avoir l'Agence régionale de santé qui, via cette association, va donner de l'argent qui permet du coup de payer des missions d'appui. Donc c'est une indemnité pour ce temps-là.
Ah oui.
Voilà.
Et comment tu t'es tournée vers le milieu associatif ?
J'ai suivi les conseils d'un très bon ami.
Ah oui, d'accord.
Seb.
Ah oui, c'est moi.
Seb.
Ah, oui.
C'est toi.
J'avais pas pensé, le mec trop modeste. D'accord.
C'est clair. Non, il y a toi, ça c'est clair. Et puis, j'ai suivi ton exemple. Et au-delà de ça, j'avais rencontré une kinésithérapeute fabuleuse qui s'appelait Anne-Marie Babin, qui bossait sur Nantes et qui était une des créatrices de cette association, qui m'avait clairement donné envie. Je m'étais dit que si un jour je revenais sur Nantes, j'allais dans cette association. Donc voilà.
Et c'est une association que basée sur Nantes pour l'instant ?
Elle est liée au Pays de la Loire, effectivement. Et il y en a sûrement dans les autres régions. Hein. C'est juste que je ne connais pas.
Ok. Comme disait Gwen, tu as fait de la danse. Et je voyais que c'était important pour toi aussi, comme une passion aussi, j'imagine. Je sais que pendant un temps, mais tu as été aussi présente aussi sur des événements à Aix, comme à l'hôpital de Montpérin, des choses comme ça. On parle beaucoup des personnes en situation de handicap qui sont isolées, qui sont en manque de liens et qui ont peut-être moins accès à ça. Tu as vu l'impact que ça avait sur les personnes en situation de handicap, sur la confiance en eux-mêmes et sur le fait de se ressentir un peu mieux, quoi.
Je vais reprendre quelque chose que je disais tout à l'heure, c'est que avant d'être une personne en situation de handicap, c'est une personne qui a des aspirations, qui a des goûts, qui a des choix, qui aime et n'aime pas, et qui a des envies, parce que c'est une personne. Le lien entre la culture, entre le sport, entre les envies professionnelles, les envies scolaires, en fait, tout ça, ça correspond à la personne, à ce qu'elle est. Donc, toute aspiration est bonne à prendre. Et de toute façon, tout le monde a besoin de ça pour se définir. On n'est pas un handicap. On est une personne à part entière. Donc, que ça soit à travers la musique, à travers la danse, à travers le théâtre, à travers la construction. J'ai vu un enfant hypotonique ne pouvoir utiliser que ses pieds et faire des Legos extraordinaires. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est ce qui définit la personne. Le handicap n'est pas ce qui définit la personne, mais ce qui définit la personne, c'est ce qu'elle aime. Donc, évidemment que la culture est nécessaire pour n'importe quel type de handicap, tout comme le sport, tout comme le développement cognitif. J'ajouterais à ça que j'ai eu la chance, la merveilleuse chance de travailler avec Estelle Join et Mamé Yansané, qui sont une psychomotricienne et une chorégraphe en danse inclusive, pendant 5 ans, et que nous avions monté un atelier de danse créative, c'est-à-dire que la danse, c'est comme une danse inclusive, c'est-à-dire que n'importe qui peut danser à partir de ce qu'il est. Donc, on ne lui demandera pas de faire un saut de chat et une arabesque, on s'en contrefout. Par contre, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que cette personne, par son corps, arrive à créer comme émotion. Je peux vous assurer que ce sont les plus belles années de ma vie. Parce que c'était extraordinaire de voir des jeunes ados entravés par leur handicap moteur, être capables d'émotions et de générer des chorégraphies et avec des mouvements simples, mais avec des mouvements extraordinaires. Et de générer une émotion folle. Donc en fait, oui, l'accès à la culture, il est nécessaire, et c'est bien au-delà de ça. C'est juste qu'en fait, ça permet aux gens de s'accomplir. Donc c'est essentiel.
D'accord. Et tu aurais un mot de la fin, Marie ?
Ayez la foi. Tous, autant que vous êtes, que ce soit les professionnels ou les personnes en situation de handicap qui vont écouter ce podcast, ayez la foi à continuer à vous battre et continuer à faire entendre votre voix et à développer toutes les initiatives que vous aurez, dont vous aurez envie, l'énergie que vous avez, il faut qu'elle serve à ça, parce que le handicap, ça nous touche tous. Aujourd'hui, ceux qui sont en pleine forme et qui considèrent que ça les atteindra pas, ils ne savent pas de quoi demain est fait. Autant physiquement que cognitivement, on ne se rend pas compte, mais un adulte de 50 ans qui d'un coup fait un AVC et perd la moitié de ses facultés motrices et autant en cognition, c'est d'une violence inouïe. Et sans vouloir faire peur à ceux qui vont écouter cette émission, c'est une réalité. Le corps humain est une magnifique horlogerie, mais le moindre grain de sable vient vous foutre un merdier sans nom. Donc, ne jamais oublier ça et retrouver un peu d'altruisme du coup dans son quotidien pour pouvoir rendre cette société plus juste et ne jamais oublier ça.
Accès validé.
Pour finir cette émission, aujourd'hui c'est Gwen qui va nous proposer une chanson, une musique.
Et bah du coup là ça fait quelques temps que je découvre vraiment pas mal d'artistes, donc ça a été compliqué de choisir, mais j'ai quand même dû me décider et je voulais vous parler du groupe Fire Club et notamment leur titre Overflow.
Nous sommes de retour sur Accès Validé, épisode 4. Et on espère que vous avez apprécié la musique que nous a proposée Gwen. Et bah Gwen, peut-être dis-nous-en un peu plus comment tu as découvert ce groupe et pourquoi tu apprécies leurs chansons.
Alors du coup, Fire Club, c'est un duo qui vient du sud de la France que j'ai découvert en avril 2026, donc vraiment tout récent. C'est à l'occasion du tremplin Horizon Sud 2026 que j'ai eu la chance de voir pour la finale.
Ah,
et ouais, vraiment c'est une vraiment ambiance super fou à l'espace Julien. Et ils étaient dans les lauréats finaux. Et voilà, donc vraiment, ça a été une grosse claque, autant sur scène. Enfin, déjà, leur musique, à écouter comme ça, j'aime beaucoup. Mais sur scène, ils ont une énergie de malade. Ils sont que deux, montrer qu'ils sont 15, clairement. Et voilà, j'ai bien aimé ce mix entre électro, rock, mélodie pop. Voilà, voilà. Bon, du coup, je sais que c'est pas vraiment ce que t'as l'habitude d'écouter, mais t'en as pensé quoi ?
Oui, bah comme tu dis, c'est pas forcément ce que j'écoute habituellement. Mais c'est vrai que ces derniers temps, bah, je m'élargis quand même à beaucoup de styles musicaux. Et c'est vrai que j'ai quand même apprécié les mélodies, les chants, même la vidéo, bah le clip, si vous avez l'occasion de le regarder, c'est... Bon, on s'y attend pas, c'est assez atypique, quoi, je trouve ça très bien. Après, je pourrais pas dire quelles sont leurs influences, tout ça, mais j'ai quand même apprécié écouter ce morceau et je vous le conseille vivement.
Et si vous avez bien aimé, ils seront au Sismic en juillet prochain, donc n'hésitez pas, c'est gratuit.
Ah bah super, merci pour l'info Gwen, j'espère que vous viendrez au Sismic, voir aussi ce groupe, et il faut le noter, c'est un groupe du Sud, alors c'est important de les soutenir.
Et donc sur cette note positive, on vous dit à la prochaine.
Bah à la prochaine, et bah à bientôt Gwen, et à bientôt aux auditeurs, aux auditrices, à plus.
Dans le bus.